Subtilité du sentiment de puissance. Napoléon enrageait de parler mal, et sur ce chapitre, ne se mentait pas à lui-même. Mais son désir de dominer qu'il ne méprisait aucune occasion de se manifester, et qui était plus subtil que son esprit subtil, l'amena à en parler encore plus mal qu'il ne le pouvait. C'est ainsi qu'il se vengeait de sa propre colère. Il était jaloux de toutes ses passions, parce qu'elles avaient de la puissance, pour jouir de son bon vouloir autocratique. Puis, il jouissait une seconde fois de ce bon vouloir par rapport aux oreilles et aux jugements des auditeurs, comme si c'était assez bon pour eux de leur parler ainsi. Il jubilait même secrètement à la pensée d'assourdir le jugement et d'égarer le goût par l'éclair et le tonnerre de la plus haute autorité qui réside dans l'union de la puissance à la génialité. Tandis que, tant son jugement que son goût gardait en lui-même la conviction qu'il parlait mal. Napoléon, comme type complet, entièrement développé d'un seul instinct, appartient à l'humanité antique, dont on reconnaît assez facilement le signe, la construction simple et le développement ingénieux d'un seul ou d'un petit nombre de motifs. Aristote et le mariage. Chez les enfants des grands génies, éclate la folie. Chez les enfants des grands vertueux, l'idiotie, fait remarquer Aristote. Voulait-il ainsi inviter au mariage des hommes d'exception ? Origine du mauvais tempérament. La justice et l'instabilité dans l'esprit de certains hommes, leur désordre et leur manque de mesure, sont les dernières conséquences d'innombrables inexactitudes logiques, de manque de profondeur, de conclusions hâtives dont leurs ancêtres se sont rendus coupables. Les hommes à bon tempérament, par contre, descendent de races réfléchies et solides, qui ont placé bien haut la raison, que ce soit à des fins louables ou mauvaises, cela a moins d'importance. Simulation par devoir. La bonté a été le mieux développée par une simulation persistante qui cherche à être de la bonté. Partout où existait une grande puissance, on se rendait compte de la nécessité particulière de cette espèce de simulation. Elle inspire la sécurité et la confiance, et centuple la somme réelle de puissance physique. Le mensonge est, sinon le père, du moins le nourricier de la bonté. De même, l'honnêteté a été formée le plus par l'exigence d'un semblant d'honnêteté et de probité. Dans l'aristocratie héréditaire, de l'exercice persistant d'une simulation finit par naître la nature. La simulation à la longue se supprime elle-même, les organes et les instincts sont les fruits inattendus dans les jardins de l'hypocrisie. Qui donc est jamais seul ? L'homme craintif ne sait pas ce que c'est que d'être seul. Derrière sa chaise, il y a toujours un ennemi. Ah, qui donc saurait nous raconter l'histoire de ce sentiment subtil qui s'appelle la solitude ? La nuit et la musique. Ce n'est que dans la nuit et dans la demi-obscurité des sombres forêts et des cavernes que l'oreille, organe de la crainte, a pu se développer aussi abondamment qu'elle a fait grâce à la façon de vivre de l'époque craintive. C'est-à-dire de la plus longue époque humaine qu'il y ait eu, lorsqu'il fait clair, l'oreille est beaucoup moins nécessaire. De là le caractère de la musique, un art de la nuit et de la demi-obscurité. D'une façon stoïque, il y a une sérénité particulière chez le stoïcien, lorsqu'il se sent à l'étroit dans le cérémonial qu'il a lui-même prescrit à ses actions. Il se considère comme dominateur. Que l'on considère. Celui que l'on punit n'est plus celui qui a commis l'action. Il est toujours le bouc émissaire. Évidence. C'est triste à dire, mais il y a une chose qu'il faut démontrer avec le plus de rigueur et d'opiniâtreté, c'est l'évidence. Car la plupart des gens manquent Dieu pour l'avoir. Mais cette démonstration est si ennuyeuse.